La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission enregistrée en direct et en public à la Bibliothèque nationale de France, où le ministère de la Culture organise le week-end culturel de l'IA. Autour de moi, un casting prestigieux d'invités pour nous parler des usages de l'intelligence artificielle dans l'écriture de l'histoire.
My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys. What? Mon cœur est à papa. You know, le propriétaire.
La vraie Marilyn Monroe sur RFI pour évoquer ces personnages du passé auxquels l'IRCAM et l'équipe de Nicolas Aubin savent redonner voix. Marilyn, De Gaulle, Dalida ou Pétain, autant d'identités vocales recréées avec l'intelligence artificielle. Mais comment en procède l'IRCAM et quelle est la limite entre recréation et falsification? C'est l'une des questions essentielles que nous aborderons dans cet épisode de La Marche du Monde consacré à l'histoire et à l'IA. Mais avant de découvrir cette incroyable fabrique de la voix parlée et chantée, Made in France, je vous présente l'ensemble de mes invités. Tiphaine Martineau-Lagarde, directrice adjointe du département son vidéo multimédia à la BNF, pour son projet Archives et IA sur l'histoire des femmes dans les métiers du cinéma. Bonjour Tiphaine.
Bonjour.
Vous êtes bien accompagnée dans cette aventure par Joseph Chazalon, enseignant-chercheur au laboratoire de recherche de l'EPITA. C'est une école d'ingénieurs en informatique. C'est donc vous, l'informaticien de la bande. Bonjour Joseph.
Bonjour.
Et puis à nos côtés, à vos côtés, Thomas Huchon, journaliste spécialiste des fake news, avec lequel nous reviendrons à la source de sa première grande enquête historique. C'était sur le vrai complot de la CIA contre le gouvernement chilien de Salvador Allende, histoire de comprendre sa formation intellectuelle et ses préconisations sur les usages de l'IA. Bonjour Thomas.
Bonjour à tous. C'est très important que vous m'écoutiez attentivement, car vous pensez sûrement que je suis Thomas Huchon, pourtant ce n'est pas moi. Enfin si, c'est ma voix, mais pas humaine. Elle est générée par intelligence artificielle. Et c'est ça, à la fois l'enjeu et le danger, c'est de faire la différence.
C'est donc l'avatar de Thomas Huchon qui m'a répondu. Bonjour quand même, Thomas.
Le vrai est quand même parmi nous, ma chère Valérie.
Vous êtes fait doubler. Et bien évidemment, Nicolas Aubin, pour les recherches sur la voix parlée de l'IRCAM, où je me suis rendue, c'est au cœur de Paris, juste à côté de Beaubourg. Et c'est le centre français de recherche scientifique, d'innovation technologique et de création musicale, fondé par Pierre Boulez en 1977. Bonjour Nicolas.
Bonjour Valérie.
Et d'ailleurs, c'est le centenaire de Pierre Boulez, cette
année,
de sa naissance. Voilà. Et pour vous questionner tous, j'ai convié à mes côtés Jean-Pierre Batte, archiviste, historien, spécialiste de l'histoire contemporaine africaine. Merci d'avoir accepté ma proposition, Jean-Pierre. Ça va ?
Merci Valérie.
Alors Jean-Pierre et Elia, vous en êtes où ?
Moi, pour l'instant, je me porte encore bien. Mon avatar, on va voir dans quelques instants.
Ok. Alors, vous savez, on va commencer par faire honneur à la Bibliothèque nationale de France qui nous accueille ici en direct sur RFI en rappelant qu'ici sont conservés 16 200 000 livres et recueils, 1 730 000 enregistrements sonores, youpi, ou encore 380 000 manuscrits, quelques chiffres d'ailleurs disponibles sur le site internet de la BNF. Mais il y a encore beaucoup d'autres documents qui sont conservés ici, Tiphaine Martineau-Lagarde, puisque votre domaine de conservation, c'est le son, mais c'est aussi la vidéo et le multimédia.
Oui, tout à fait. Le département son vidéo multimédia à la BNF conserve presque 2 millions de documents, dont la moitié de documents sonores, mais aussi plus de 350 000 vidéos et 100 000 documents multimédia, dont 20 000 jeux vidéo.
Alors, en ce qui concerne l'utilisation de l'IA, avant de parler de votre projet, bien sûr, ici à la BNF, pour le moment, c'est vraiment un outil pour traiter les documents manuscrits. En quoi ça consiste concrètement?
Alors, l'IA pour traiter les documents manuscrits, c'est un sujet qui est un petit peu en dehors du département son vidéo et multimédia.
Non, on va quand même en parler parce plutôt, que ça permet de faire des documents tapuscrits. C'est-à-dire qu'on a des archives écrites à la main, ce qui est quand même hyper dur à décrypter. Pour les historiens.
En fait, on appelle ça la paléographie, généralement, les lectures des écritures. C'est la spécialité des chartes.
Voilà. Et avec l'IA, vous arrivez donc à les convertir
en texte, avec la reconnaissance automatique, effectivement, de manuscrits, avec le système de l'HTR.
C'est quand même hyper, hyper intéressant. Alors, en ce qui concerne, justement, le pan de l'histoire des femmes auquel vous vous attaquez, Tiphaine, elle pourra peut-être être écrite par des historiennes et des historiens, parce que vous lancez un projet extrêmement ambitieux sur les métiers du cinéma exercés par les femmes. En quoi consiste ce projet? Quel volume d'archives doit être traité pour pouvoir mener à bien cette recherche historique qui sera une première?
Alors, c'est un programme de recherche que nous lançons effectivement cette année pour 2 ans, pour 2025 et 2026. Donc, c'est un programme porté par la Bibliothèque nationale de France et qui est financé par l'école universitaire de recherche Artec, qui a été créée par l'Université de Paris 8, Paris Nanterre et par le CNRS. Et donc, ce programme de recherche, en fait, est parti du constat que finalement, les femmes, c'est quelque chose d'un peu connu, les femmes dans les métiers du cinéma sont pas très connues. Elles sont restées un peu dans l'ombre des histoires du cinéma. Quand on a parlé d'elles, on a plutôt parlé des réalisatrices. Et là, le programme de recherche souhaite s'intéresser à tous les métiers du cinéma. En dehors des actrices qui sont celles qui sont le plus mises en avant par le cinéma, et donc de l'écriture du scénario jusqu'à la diffusion des films en salle de cinéma et aux critiques de films, en passant par les métiers techniques.
D'où ce travail en équipe avec Joseph Chazalon, enseignant-chercheur à l'EPITA. Comment procédez-vous, Joseph? Parce que si j'ai bien compris, il y a la volonté donc de pouvoir traiter des archives, notamment des annuaires, des centaines et des centaines d'annuaires qui ont des milliers de pages, parce que le cinéma maintenant, ça existe depuis plus d'un siècle. Vous commencez par faire quoi? Par écouter les historiens, après essayer de comprendre quel est leur besoin?
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je suis ravi de faire partie du projet de Tiphaine, qui a vraiment réussi à fédérer beaucoup de monde, donc des historiens et des informaticiens. Je ne suis pas le seul, bien sûr, dans ce projet. Et on va essayer de co-construire des outils qui vont permettre de connecter, en quelque sorte, les questions de recherche des historiens aux problématiques d'accès aux données qui sont bien trop volumineuses pour qu'on puisse les traiter à la main, en fait.
C'est ça, parce que normalement, les historiens s'attaquent aux annuaires, ils les regardent page par page, donc il faudrait des années peut-être pour pouvoir fouiller, comme on dit dans le vocabulaire historien, toutes ces archives. Ça veut dire que vous allez pouvoir créer un outil pour pouvoir faire cette fouille archivistique à la place des historiens?
Alors, c'est une très très bonne question. Effectivement, alors l'idée, c'est bien sûr d'assister les historiens et de se mettre à leur service dans le respect d'une méthode de travail bien qui est cohérente avec leur démarche, leur intégrité. Donc le lien à la source, notamment, est très important. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre en place des outils qui vont faciliter leur travail. On va en particulier essayer de partir des images des pages des annuaires, qui ne sont que des photographies finalement au début, sans aucun texte disponible, pour finalement structurer progressivement cette information et leur faire gagner du temps. En fait, de quoi a besoin un historien pour commencer à compter les femmes dans les métiers du cinéma, c'est d'être capable d'abord de les identifier, de les nommer. Donc on va établir finalement avec la machine, on va faire automatiquement lire l'ordinateur pour produire de grands tableaux qui vont réunir tous les annuaires. Et ces tableaux vont avoir des colonnes qui vont être le nom, le prénom, le métier, l'année dans laquelle on trouve cette information, de l'annuaire dans lequel on trouve cette information, et puis la page aussi pour pouvoir revenir à la source.
Alors au fond, il s'agit de rendre visibles toutes ces femmes, dont on ne connaît d'ailleurs pas les noms, à part bien entendu, vous l'avez dit, quelques cinéastes, réalisatrices très connues. On pense à Agnès Varda ou encore Alice Guy, récemment redécouverte, une pionnière, réalisatrice, scénariste et productrice. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont exercé beaucoup d'autres métiers, script, maquilleuse, monteuse, comme par exemple Suzanne de Troyes. Écoutez sa voix, c'est une archive du fonds Images et Mémoires FPA Classics, conservée à la BNF et choisie par vous, Tiphaine Martineau-Lagarde.
Comme je sortais de la photographie, ouais. J'avais quand même des tas de connaissances. Ouais. Je voyais des rayures sur une pellicule, je voyais les poussières, je voyais une chose qui était mal cadrée. Vous voyez, tout ça, j'avais appris dans la photographie. Alors donc, ça a marché très vite pour la pellicule, le cinéma. Je connaissais la pellicule du coloris, la manipulation. Alors tout de suite, je suis devenue monteuse. Vous savez, à l'époque, il y avait aussi pas d'école. À l'époque, on n'était pas seulement monteuse.
Ah,
on était un peu tout. On était script, on était accessoiriste.
Figurante.
Oh, dans tous les films de Renoir et de Pagnol, j'ai tourné.
Oui, là, vous étiez obligée d'être script et monteuse en même temps.
Ah ben, mais j'avais l'habitude parce qu'avant, c'était comme ça.
Oui.
Chez Renoir, avant. Oui. Après, ça s'est arrangé. Après, on a catalogué les techniciens, mais pendant des années, moi, j'ai travaillé comme ça. On était à la fois monteuse, on était script, on faisait tout, quoi. Oui. Les monteuses étaient sur le plateau au début, quand j'ai commencé dans le métier. Oui. Les monteuses étaient sur le plateau.
Et la façon de travailler des scripts, telle qu'on la pratique aujourd'hui, ça, c'est venu aussi petit à petit. Tous ces cahiers de notes pour mémoriser chaque prise au moment du tournage.
Savez, c'est venu petit à petit. C'est-à-dire que les scripts existaient en Amérique et pas en France. Les scripts ont existé en 1936. Alors Goupilla m'avait expliqué, il m'avait dit, vous savez, il y a des jeunes femmes en Amérique qu'on appelle des scripts. Alors elles ont des tas de cahiers, des tas de crayons qui pendent partout. Elles ont des crayons de couleur et puis des cahiers différents et elles notent tout ça. Il m'avait expliqué le métier de la script. Et alors après, petit à petit, c'est venu en France. Et puis, elles ont amélioré leur technique comme nous avons fait dans le montage. Vous comprenez, sur le tas, chacun a apporté des idées.
Il est arrivé un moment où on a carrément scindé les deux professions.
Voilà. Puis c'est devenu cette entrée dans les normes et tout le monde a. C'est ça, petit à petit. Puis alors il y a eu la commission supérieure technique après la guerre et on a établi des normes pour les écoles, pour l'IDEC, on a établi des normes pour la formation.
La vraie voix de Suzanne de Troyes, l'une des premières scripts du cinéma français, également monteuse, une des femmes dont le nom devrait sortir de votre programme de recherche, Tiphaine Martineau-Lagarde et Joseph Chazallon. Mais va falloir quand même croiser toutes ces infos avec d'autres sources.
Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est de partir des annuaires, parce que la difficulté, en fait, pour ces femmes dans les métiers du cinéma, c'est déjà, on ne connaît pas leur nom. Finalement, Suzanne de Troyes, là, on a trouvé ses archives, mais qui connaît le nom de Suzanne de Troyes, qui pourtant a été monteuse du début des années 30 jusqu'au début des années 60, et a été la monteuse de Jean Renoir, de Marcel Pagnol, de Marc Allégret. Et donc justement, c'est à cela que vont nous servir les annuaires, c'est que par les annuaires, on arrive à trouver les noms. Donc, par l'IA, on part des annuaires numérisés et on en sort les noms des femmes. On peut aussi les compter. Et ensuite, on utilise cette clé d'entrée du nom des femmes pour aller chercher dans les archives de la Bibliothèque nationale de France, de la Cinémathèque française, des archives nationales.
Joseph Chazallon, dernière question. Vous n'aimez pas trop ce terme, intelligence artificielle, et pourquoi donc ?
Oh bah c'est vrai que c'est un terme qu'on hérite des années 50 et je pense qu'à cette époque-là, c'était une façon aussi de faire un peu fantasmer. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, derrière ce fantasme, il y a quelque chose de très très pragmatique, c'est juste l'automatisation d'un mécanisme cognitif ou intellectuel. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, par opposition à... Finalement, c'est un outil intellectuel par opposition à un outil physique, tout simplement. On va automatiser des tâches intellectuelles.
Thomas Hichon.
En fait, je pense qu'on est face à un outil absolument révolutionnaire, mais qu'on ne le comprend pas parce qu'on parle très très mal l'anglais. Et en fait, on n'est pas capable de traduire correctement un mot. Artificial intelligence, en anglais, ça ne peut pas se traduire par intelligence artificielle en français. Sinon, la CIA, la Central Intelligence Agency, c'est l'agence centrale de l'intelligence. C'est pas le cas.
Alors d'un mot, vous traduisez comment ?
Et en fait, c'est du renseignement.
L'un des airs les plus connus des opéras de Mozart, l'un des plus célèbres, La Reine de la Nuit, c'est dans La Flûte enchantée, ou plus exactement, c'est dans votre laboratoire à l'IRCAM, Nicolas Aubin. Nous sommes en 1982. Qu'est-ce que vous avez réussi à recréer ? Qui chante ?
Alors, c'était pas moi, j'avais 2 ans. Mais c'est un ordinateur qui chante. C'est un extrait qui a été réalisé quasiment au début de l'IRCAM. Et la voix, dès ses origines, a été un axe stratégique extrêmement important dans les recherches qui étaient menées à l'IRCAM. Donc la voix chantée, celle qu'on a entendue, mais aussi la voix parlée. Voilà, ça peut paraître curieux, parce que rappelons que l'IRCAM, c'est un centre qui est dédié, un institut qui est dédié à la création musicale, mais à la création sonore plus largement.
Nicolas Aubin, vous êtes maître de conférence à Sorbonne Université, vous êtes chercheur dans l'équipe analyse et synthèse des sons. Je suis allée vous voir à l'IRCAM pour comprendre tout le chemin parcouru depuis les années 80 et j'ai été subjuguée par cette fausse reine de la nuit, mais j'ai également été très surprise lorsque vous m'avez fait entendre ce que vous arriviez à faire à la même époque, début 80, pas vous on a compris, mais l'IRCAM avec la voix parlée. Alors, chers publics et chers auditeurs, on va écouter ça en 2 temps. D'abord, un extrait de la comptine Au clair de la lune, pour que tout le monde ait bien la référence. Et puis, juste après, ce que l'IRCAM a créé en 1980. C'est pas encore ça. Hein. C'est vrai que la différence en 80 entre la note chantée de La Reine de la Nuit, qui est incroyablement bluffante, et puis cette chanson parlée, c'est complètement contre-intuitif. Moi, j'ai été très surprise, Nicolas Aubin. Donc ça veut dire que la voix parlée est beaucoup plus difficile à modéliser.
Alors, ce sont les mêmes systèmes hein, qui sont utilisés dans un cas comme dans l'autre. Et effectivement, la voix chantée, alors c'est pas parce qu'elle est chantée, mais en fait, l'air de La Reine de la Nuit, c'est une voyelle qui est tenue. Voilà. Donc c'est beaucoup plus facile à synthétiser que d'articuler du langage, c'est-à-dire d'enchaîner des successions de voyelles et de consonnes. Voilà, je pense qu'à l'évidence, on a réussi à faire la différence, mais c'est le même algorithme qui est à la source de l'un et de l'autre. Et d'ailleurs, c'était un petit clin d'œil de Xavier Rodet, qui était le chercheur qui a porté la voix à l'IRCAM à ses origines, facétieux à Pierre Boulez, dont on fête effectivement les 100 ans de la naissance.
Oui, mon ami Pierrot, c'est donc Pierre Boulez. Comment on fait ? Est-ce qu'on peut reproduire le timbre de la voix, c'est-à-dire sa douceur, sa dureté, sa chaleur ou sa dimension métallique ?
Alors, pour expliquer un petit peu les choses aux auditeurs et aux auditrices, les exemples qu'on a entendus là étaient de la pure synthèse. Donc c'était des algorithmes qu'on appelait des systèmes à règles. On formalisait de la connaissance humaine sous forme de règles qui étaient ensuite implémentées dans des programmes informatiques. Et le fait qu'on arrive à synthétiser une voix d'homme ou une voix de femme, en fait, c'était issu d'avoir encodé directement dans les algorithmes des mesures physiques qui étaient faites, acoustiques ou physiques, sur des êtres humains. Mais il n'y avait pas de données à l'époque, où les seules données, c'était un petit nombre de mesures physiques. Si on fait un saut dans le temps, effectivement, donc la voix, on peut la décomposer assez schématiquement comme la manière de parler, ce qu'on nous on nomme la prosodie chez les linguistes.
Voilà, le rythme, les intonations.
Ouais. Et plus simplement, la musique de la voix.
La musique de la voix.
Voilà. Ouais. Et le timbre, qui est sa couleur. Voilà. Et quand on cherche à modéliser ou synthétiser la voix, on cherche à simuler et reproduire en fait ces deux paramètres de manière coordonnée et cohérente les uns avec les autres.
Alors dans votre laboratoire, on a écouté plein de choses ensemble et vous m'avez fait part également de vos recherches sur la voix parlée et notamment sur l'hybridation. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors...
Non, je me marre parce que je sais ce qu'on va entendre après.
D'accord, mais je crois que je sais aussi. Alors, les artistes, eux, font feu de tout bois et aiment justement faire feu de tous les artifices, y compris ceux de l'intelligence dite artificielle, et donc ne se contentent pas en général de modèles de simulation pour reproduire de la réalité, mais ils aiment bien détourner les usages et, par exemple, composer des sons de l'inouï en recomposant deux sources sonores ensemble.
Alors, démonstration de l'hybridation grâce à l'IRCAM et grâce aussi au comédien Sean Connery.
Once upon a midnight dreary. Once upon a midnight dreary.
Vous vous amusez bien quand même à l'IRCAM, Nicolas Aubin. Alors, pour bien comprendre ce processus de recréation d'une voix historique, on est dans la marche du monde et c'est ça qui nous intéresse. Nous allons prendre un exemple absolument extraordinaire. C'est un travail pionnier que vous avez mené en 2015 pour la série documentaire Jugé Pétain, initiée par son producteur délégué, le journaliste Denis Poncé, dont nous écoutons la vraie voix en préambule du film.
Avant même que ne commence le procès de Philippe Pétain, un journaliste l'avait qualifié de plus grand procès de l'histoire. Les Français qui l'avaient soutenu et ceux qui l'avaient combattu, ceux qui voulaient que les comptes soient réglés et ceux qui voulaient simplement savoir, brûlaient d'impatience.
Le peuple de Paris ne le permettra pas non.
Pour être à la hauteur de cette attente, le gouvernement de Gaulle autorisa exceptionnellement quelques opérateurs munis de caméras muettes à pénétrer chaque jour pour quelques minutes dans l'enceinte du palais de justice. Ces images du procès, muettes depuis 70 ans, ne le sont plus désormais. Nous nous sommes d'abord plongés dans les 2000 pages des débats consignés par les sténographes du palais. Puis, grâce à une innovation technique permettant la reconstitution des voix originales, nous avons uni le geste à la parole exacte des témoins.
Paix à son âme, Demi Poncé a eu cette idée géniale de reconstituer non seulement le procès Pétain sur la longueur, mais aussi la voix de Pétain et des protagonistes du procès, un procès qui s'est déroulé à Paris en juillet 1945. Il choisit à l'époque de solliciter l'IRCAM, il soumet sa demande. D'abord, première question, pourquoi l'IRCAM accepte ?
Parce que alors nous avons reçu dans toute l'histoire de l'IRCAM un grand nombre de demandes en fait, de recréation de voix, de personnalités historiques disparues. La première qui vient à ma mémoire, c'était Jean Cocteau, dans le milieu des années 2000. Il me semble que c'était une demande qui venait du Centre Pompidou, mais je n'en suis pas absolument sûr. Et l'état des algorithmes de l'époque était très en deçà des attentes en termes de qualité de rendu sonore, et donc les demandes n'aboutissaient pas en général. La première fois que nous avons réalisé, recréé une voix historique, c'est la première qu'on nous a entendue au commencement de cette séquence, c'est Marilyn Monroe, dont on va reparler après. Mais donc ce maréchal Pétain, c'était donc ce projet de finalement créer à nouveau une réalité historique passé.
Déontologiquement, vous acceptez parce que on a affaire à... Enfin, la situation, elle est quand même assez magique. C'est-à-dire qu'on a des images d'actualité qui sont partielles, en ce qui concerne le procès, mais on a un verbatim extrêmement précis. C'est-à-dire que tous les mots qui ont été prononcés au procès Pétain, vous les avez. Donc, il y a une véracité historique.
Absolument. Et c'est pour ça qu'on est allé dans ce projet sans vraiment se poser de questions. Et c'était l'une des premières utilisations. Donc il y avait un aspect aussi, défi technique à être capable ou non de reproduire ces voix.
Gros défi technique. Alors là, ce n'est pas seulement avec une machine, c'est d'abord avec un comédien. Quel comédien va faire la voix de Pétain et comment on choisit cette voix, justement ?
Alors, je ne sais pas si on va l'écouter après.
Si, on va l'écouter.
Ah, d'accord, voilà. Contrairement aux synthèses ou aux voix qu'on nous avait entendues au début, ici, ce n'est plus une synthèse totale. La voix n'est pas totalement générée par ordinateur, mais on va mélanger ensemble la voix d'un comédien et... des choses qui ont été apprises à partir d'enregistrements historiques. Le comédien en question, c'est Philippe Pétieux, que peut-être certains auditeurs connaissent, mais c'est le doubleur français de Homer Simpson et du grand-père Simpson.
Oui, on ne s'attendait pas à ça.
Voilà.
Voilà. Alors, on écoute le résultat final. D'abord, la prestation du comédien Philippe Pétieux et ensuite, la version diffusée dans le film après le travail en modélisation de la voix parlée de l'IRCAM.
Si vous deviez me condamner, que ma condamnation soit la dernière et qu'aucun Français ne soit plus jamais condamné ni détenu pour avoir obéi aux ordres de son chef légitime. Mais, je vous le dis, à la face du monde, vous condamneriez un innocent en croyant parler au nom de la justice. Et c'est un innocent qui en porterait le poids, car un maréchal de France ne demande de grâce à personne. À votre jugement, répondront celui de Dieu et celui de la postérité. Ils suffiront à ma conscience et à ma mémoire. Je m'en remets à la France.
Si vous deviez me condamner, que ma condamnation soit la dernière, et qu'aucun Français ne soit plus jamais condamné ni détenu pour avoir obéi aux ordres de son chef légitime. Mais, je vous le dis, à la face du monde, vous condamneriez un innocent en croyant parler au nom de la justice. Et c'est un innocent qui emporterait le poids. Par un maréchal de France, ne demande de grâce à personne. À votre jugement, répondront celui de Dieu et celui de la postérité, qui suffiront à ma conscience et à ma mémoire. Je m'en remets à la France.
On entend bien le travail de recréation de la voix et aussi le travail de recréation de l'acoustique de la salle du procès. Une salle d'ailleurs, je le dis à nos auditeurs, qui existe toujours dans son jus au Palais de Justice à Paris sur l'île de la Cité. Un ingénieur du son est passé par là, Nicolas Urbain.
Oui, alors nous avons eu le plaisir de collaborer avec Maximilien Colsi. C'est avec lui que nous avons travaillé directement en fait, hein, pour tout le processus de recréation des voix, et en particulier celle du maréchal Pétain. Et donc, peut-être pour revenir sur qu'est-ce qu'on demande à ce comédien, finalement, on lui demande d'incarner le texte qui est prononcé. Donc déjà, prononcer le texte qui est effectivement celui qui a été prononcé.
Incarner le texte ou imiter alors, Pétain?
Dans le cas de reproduction historique, ce sont les deux en même temps. C'est incarner, donc donner une interprétation, un corps au texte, avec donc, la prosodie. Dans le cas d'une reproduction de voix de personnalité historique, on demande à ce comédien d'imiter au plus proche la manière de parler.
Voilà, on lui demande non pas d'imiter comme un imitateur, un comédien imitateur qui nous fait rire. On demande en fait au comédien d'essayer de trouver le tempo, le style de Gaulle.
Pétain.
Le style Pétain de Gaulle, c'est pour tout à l'heure. Alors,
absolument, oui.
Voilà. Jean-Pierre Batte, historien, qui connaît très bien justement les discours de Gaulle notamment. Ça vous fait quoi de Gaulle et de Pétain? Je me mélange les pinceaux. Quand vous écoutez cette voix de Pétain recréée, c'est la seule fois d'ailleurs où il s'exprime, hein, c'est au tout début de son procès. En 1945, qu'est-ce que vous en pensez? À quoi ça sert pour la transmission de l'histoire?
Eh bien alors, exactement. Il y a une réaction de l'historien, une réaction de l'archiviste. Alors l'historien, c'est assez simple, vous voyez, on a un petit besoin quand même, c'est qu'on a l'image, on a le texte, mais on n'a pas le son. Et en fait, ce qu'on aboutit, c'est la reconstitution, parce qu'on a tout ce processus-là, et le professeur d'histoire fait très souvent ça, c'est reconstituer trois dimensions. Il y a un besoin parce que ça fait référence à une notion qui s'appelle les lieux de mémoire. On sait que ça a eu lieu et on a besoin de toucher une forme de preuve. Et là, on arrive à la question de l'archiviste derrière, qui n'est pas simplement est-ce que c'est authentique ou est-ce que c'est pas authentique, puisqu'on prouve par les archives que le texte a bien été prononcé.
Absolument.
Mais je vais faire un petit saut dans le passé. On va remonter de plusieurs siècles. Et en fait, la grande époque de ce qu'on appelle les forgeries, c'est-à-dire la fabrication des faux, c'est en fait l'époque médiévale. On est quelque part entre le XIe et le XIIIe siècle, à l'époque de la révolution de l'écrit. Et la première question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut se résumer, quand on est confronté à ces notions, à vrai, faux, authentique, falsification, ou est-ce qu'entre les deux, il n'y a pas toute une industrie de création, c'est-à-dire de professionnels de l'écrit qui vont eux-mêmes, comme aujourd'hui les professionnels de l'oral, s'emparer de cet espace d'entre-deux pour faire vivre des textes. Faire vivre, ça veut dire parfois les falsifier, mais parfois aussi les faire revivre, c'est-à-dire les rééditer. Et en fait, on est dans ce problème qui n'est plus biface pour l'archiviste et qui est plus simplement un faux ou un authentique, mais qui a la vie d'une archive, qui a la fabrication et à terme, quel est le cycle de vie qu'on va attribuer quand on va dire au texte de Pétain, c'est-à-dire au prononcé qu'il a effectivement fait, qui a disparu dans
En fait, parce qu'il n'a pas été enregistré. C'est-à-dire qu'à l'époque, les actualités cinématographiques ont filmé, ont diffusé avant le film au cinéma avec une musique et un commentaire. Donc on n'enregistrait pas la voix de Pétain.
Et on revient à la boucle finale. Pourquoi avons-nous besoin en 2025 d'entendre la voix de Pétain? Sinon parce qu'on est en train de visiter un lieu de mémoire. Vous l'avez vous-même dit, les lieux existent encore. Et donc on a un peu cette culture aussi. Hein. Ce lieu, c'est la culture des ruines.
Alors depuis, Nicolas Aubin, vous avez beaucoup avancé puisqu'en 2018, avec le projet ANR The Voice, vous avez conçu des algorithmes permettant de transférer l'identité vocale d'une personne sur la voix d'une autre personne, ce que vous désignez par deep fake vocal. Thomas Huchon, traduction.
Bien, ça va être un deep fake vocal, c'est donc une voix qui a l'air d'être vraie, mais qui ne l'est pas du tout puisqu'elle est fabriquée artificiellement.
C'est tout à fait ça.
C'est en fait ce qu'on a diffusé au début, le faux Thomas Huchon qui vous a parlé.
Absolument. Et vous l'avez fait, Nicolas Aubin, pour une émission de télé de Thierry Ardisson, L'Hôtel du Temps, dont le principe est de redonner vie aux morts, afin que Thierry Ardisson les interviewe avec l'accord des ayants droit.
Absolument, oui.
J'espère bien.
Lundi sur France 3, je vous invite à entrer dans l'Hôtel du Temps pour vivre une expérience unique. Je vais interviewer Dalida. Si, si, 35 ans après sa disparition, je vais interviewer Dalida.
Comment allez-vous ?
Je suis bien ici. Je crois qu'à l'Hôtel du Temps, j'ai enfin trouvé la paix.
Jean Sobieski a dit que vous étiez une petite fille naïve qui ne connaissait rien au plaisir sexuel, c'est vrai ?
Mais comment savez-vous ça, Thierry ? Vous savez, le plus dur, c'est pas de mourir. Le plus dur, c'est de recommencer à vivre.
Le plus dur, ce n'est pas de mourir. Le plus dur, c'est de recommencer à vivre. Des mots recréés par l'IRCAM et votre programme d'intelligence artificielle, Nicolas Aubin. C'est une voix clonée, c'est une image clonée pour créer l'illusion d'une Dalida réellement interviewée par Thierry Ardisson. Du point de vue de la recherche, l'IRCAM est satisfait, mais je me tourne aussi du côté de Thomas Huchon. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je crois qu'en fait, ces outils d'intelligence artificielle, même si on l'a dit, le terme ne correspond pas exactement à ce qu'ils sont, on les voit comme des outils extrêmement modernes et futuristes. Et je crois qu'on ne mesure pas suffisamment que ces outils ne changent pas tant notre rapport au présent ou au futur qu'ils ne changent notre rapport au passé.
Alors c'est très intéressant parce que le public n'a pas suivi, par exemple, sur cette expérience. Il n'était pas au rendez-vous et la série s'est arrêtée.
Voilà. Et donc je pense qu'il y a quelque chose d'un peu... Alors après, il y a tout un tas de raisons qui expliquent le succès ou non d'un programme à la télévision. Il n'y a pas que le produit en lui-même. Il y a le moment auquel il va être diffusé. Il y a la chaîne sur laquelle il va être diffusé. Peut-être que sur une autre chaîne avec un public un peu différent de celui de France 3, ça aurait peut-être pris sur une chaîne comme Arte où il parle de technologie de manière beaucoup plus fréquente depuis une vingtaine d'années. Il y a plein d'éléments qui jouent là-dessus. Mais je crois qu'il y a un truc, en tout cas, auquel il va falloir qu'on soit très attentif dans les années à venir, mais en réalité, dans les secondes et dans les minutes qui viennent, puisque l'intelligence artificielle va tellement vite qu'on ne peut même pas se projeter à ce niveau-là. Je crois qu'il va être vraiment important d'être capable de remonter à la source. Hein, et d'avoir une idée que ça nous plaise ou non, c'est pas ça qui soit si important. Ce qu'il va falloir, c'est qu'on arrive malgré tout à conserver les faits. Le problème, c'est pas tant de pouvoir faire dire n'importe quoi à n'importe qui, c'est de pouvoir le diffuser.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, parole.
Sophie Janin, la réalisatrice, est aux anges. La vraie voix de Dalida sur RFI, vous écoutez La Marche du Monde en direct et en public à la BNF pour une antenne spéciale IA tout le week-end, en avant-première du sommet IA qui se tient à Paris. Et grâce à Nicolas Aubin et son programme The Voice, conçu par l'équipe de l'IRCAM, nous partageons avec vous, chers auditeurs, des recréations de voix, de personnalités historiques. Dernier exemple, et non des moindres, ça va beaucoup intéresser Jean-Pierre Batt, la recréation de la voix du général de Gaulle, que j'appelais de mes voeux. Le général de Gaulle qui n'accepte pas la défaite de la France et encore moins l'armistice, signé par le maréchal Pétain, c'est l'autre. De Gaulle qui prononce son premier discours depuis Radio Londres le 18 juin 1940, discours diffusé mais pas enregistré, puisque c'est son discours suivant, celui du 22 juin, vous me suivez, que l'on diffuse habituellement. Mais grâce à une enquête remarquable de nos confrères du journal Le Monde, le discours écrit est retrouvé et la voix recréée par l'IRCAM. Nous sommes en 2023.
Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres.
Nicolas Aubin, il y a quand même quelques années, entre la recréation de la voix de Pétain et la recréation de la voix de Gaulle, hein, qu'est-ce qui a changé dans les outils ?
Alors, le principe est le même, hein, on l'a bien compris, les outils ont changé. Pour le maréchal Pétain, on était dans une ère qui était... Alors, les deux sont basés sur des données, l'utilisation de données réelles d'enregistrement des personnes et sur l'apprentissage à partir de ces données. Donc on appelle ça l'apprentissage machine. La machine cherche à apprendre, en l'occurrence le timbre d'une personne, à partir d'une collection d'enregistrements. Ce qui distingue les deux, c'est finalement, avant... les réseaux de neurones profonds, donc ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, et qui donne des résultats très spectaculaires, y compris pour le clonage vocal, et avant, bah, des moyens qui étaient plus compliqués à mettre en œuvre et qui nécessitaient beaucoup plus de données pour reconstituer la voix et beaucoup plus d'intervention humaine dans le processus de recréation. Aujourd'hui, c'est automatique, avec très peu de données. Un enregistrement de 5 secondes peut suffire à cloner une voix.
C'est dingue, Jean-Pierre Batt. En fait, on retrouve un petit peu la même justification que tout à l'heure, finalement, pour Pétain, de votre point de vue d'archiviste et d'historien. C'est intéressant.
Alors, c'est très intéressant. On retrouve le même processus, mais en plus, il y a derrière une archéologie de la source, puisque pour réussir à éditer le bon discours, eh bien, on a recoupé avec les manuscrits de Gaulle, mais aussi l'unique retranscription qui avait été trouvée dans les archives à Berne, en Suisse. Et ironie de l'histoire, le retranscripteur suisse, en fait, était germanique. Donc on a une version retranscrite en allemand du discours de Gaulle qu'on a pu recouper avec la version écrite de Gaulle. Et ce qui est intéressant, c'est quand on arrive là, c'est tout ce qu'on ne voit pas, puisque derrière vous, vous voyez tous le grand placard qui est un peu partout dans des lieux de mémoire, bordé de tricolores avec la croix de Lorraine et la signature de Gaulle, en espérant que ce soit le texte du 18 juin. Et quand on passe dans l'archéologie de cette recréation, en fait, ça nous permet de revisiter l'histoire. Encore faut-il aller jusqu'au bout, et j'en reviens à ce que disait Thomas, de notre, un, rapport au passé, deux, critique des sources, qui est le fondement de l'historien, la critique des sources, sans quoi l'audition d'une recréation IA n'a pas de valeur pour l'historien.
Alors Thomas Huchon, vous êtes vous-même un passionné d'histoire, un spécialiste de deepfake. Moi, je vous ai réservé un énorme deepfake, mais rien que pour vous. Cela concerne un discours de Bachar el-Assad au moment de sa chute. Il reconnaît sa pleine responsabilité dans ce qui s'est passé dans le pays.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ayyuha al-Muwatinoun, fi hadhihi al-dhuruf al-'asibah allati tamurru biha al-bilad. ونتيجة لما وصل إليه حال الشعب السوري قررت أنا بشار الأسد وبعد الإقرار التام عن مسؤوليتي عما حدث في البلاد طوال السنوات السابقة قررت التخلي عن منصب رئيس الجمهورية ونقل الصلاحيات لرئيس مجلس الشعب.
après avoir pleinement reconnu sa responsabilité dans ce qui s'est passé dans le pays au cours des dernières années, Bachar al-Assad renonce au poste de président de la République et transfère les pouvoirs au président de l'Assemblée du Peuple. Dans nos rêves, Thomas Huchon.
Oui, effectivement, je crois que c'est ce genre de prouesse technique et technologique a quelque chose de fascinant. Ça a aussi quelque chose d'absolument terrifiant. Et je crois qu'il faut tous qu'on ait bien à l'esprit le fait que bien il est vraiment aujourd'hui possible de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et que ça peut avoir des conséquences terribles d'un point de vue de la manipulation des personnes dans le cadre de petites escroqueries. Hein. On a vu récemment un faux Brad Pitt escroquer une femme française sur des centaines de milliers d'euros. Mais je crois que ça a aussi un péril démocratique. Et si on se reporte à un certain nombre de scrutins récents, je pense notamment à ce qui s'est passé en Slovaquie au mois d'octobre 2024, élection présidentielle, le vendredi soir, la campagne est terminée, on va voter le dimanche, va sortir un deepfake audio du candidat très en avance dans les sondages, qui est plutôt un candidat centriste, un deepfake audio qui va lui faire dire qu'il a piqué de l'argent dans la caisse pour le faire très court. Son opposant, qui est plutôt un candidat pro-russe, qui est plutôt un candidat réactionnaire d'extrême droite, eh bien, va profiter de ce deepfake pour poursuivre la campagne de manière numérique pendant ces deux jours où nous ne pouvons plus parler de politique. Les grands médias ne peuvent pas expliquer que ce contenu est faux, puisqu'ils ont interdiction de parler de politique. Et à la fin, ce candidat, qui avait une immense avance dans les sondages, a perdu les élections. Et c'est donc un candidat pro-russe qui s'est emparé du pouvoir en Slovaquie dans des conditions qui sont assez inquiétantes et qui ont fait un bis repetita au mois de décembre en Roumanie, dans lequel la Cour constitutionnelle roumaine a été obligée d'intervenir pour interdire le résultat des élections parce qu'il était avéré qu'elles étaient truquées par des moyens inauthentiques, comprenez là des deepfakes et de la fabrication de contenu, mais aussi tout un tas d'opérations numériques sur les réseaux sociaux, des fermes de trolls qui poussent les contenus. Donc il y a là quand même un certain nombre d'outils qui ont une puissance colossale, qui peuvent être extrêmement mal utilisés et qui, dans ces cadres-là, nous oblige à une forme de réflexion individuelle, mais aussi en tant que société, bien sûr, quelle réglementation nous allons pousser sur toutes ces questions-là.
Justement, alors, puisqu'on fait de l'archéologie du son et de l'histoire dans cette émission, moi, j'aimerais bien qu'on revienne à vos jeunes années, Thomas Huchon. Vous consacrez 10 ans au vrai complot de la CIA contre le président chilien socialiste Salvador Allende. À l'époque, d'ailleurs, on fait une émission ensemble. Qu'est-ce que cette expérience... Qu'est-ce que cette enquête historienne vous a laissé et de quelle façon ça vous a amené finalement à continuer ce travail sur le vrai et le faux ?
Ben, c'est très bizarre, mais j'ai passé 10 ans de ma vie à lutter contre le vrai complot de la CIA et de Pinochet contre la démocratie chilienne. Et depuis 10 ans, je lutte contre les faux complots. Les vrais complots ont fait l'histoire et les vrais complots existent. Mais nous vivons une époque bizarre dans laquelle les faux complots pourraient faire l'histoire à leur tour. Et je crois que de cette réflexion-là, eh bien moi j'ai compris quelque chose dans cette enquête, c'est que nous Français nous voyons la fin de la démocratie chilienne comme le coup de glas donné par les militaires à une expérience socialiste pacifique. Mais je crois que nous n'avons pas compris que c'était en réalité la possibilité pour tout un tas de gens de tester un modèle néolibéral de manière totalement dérégulée et que le Chili a servi de laboratoire à tout cela. Ce laboratoire, il a été conçu par un économiste à la renommée internationale qui s'appelle Milton Friedman. Et le lendemain de votre coup de fil pour faire cette émission avec vous aujourd'hui, eh bien, cette espèce d'histoire a résonné très bizarrement. Parce que sur le réseau X, anciennement Twitter, eh bien, Elon Musk, qui est aujourd'hui l'un de ces perturbateurs des démocraties, partageait une vidéo de Milton Friedman, disant que c'était ça le modèle à suivre et que finalement ces grandes entreprises de la technologie qui ont à la fois pris le contrôle de l'alpha et de l'oméga de nos vies sociales, de la fabrication de nos opinions, de notre consommation, mais qui sont aussi celles qui, par leurs investissements, structurent ces outils d'intelligence artificielle qui sont mis à notre disposition aujourd'hui ou qui sont utilisés contre nous, eh bien, en réalité, leur rêve, c'est l'économie du Chili de Pinochet. Et donc, il y a une espèce de truc qui résonne bizarrement dans ma tête entre ce vrai complot qui a permis de tester ce modèle néolibéral à l'époque et ces faux complots aujourd'hui qui sont en train de renverser des processus démocratiques dans tout un tas de pays et de permettre à ces néolibéraux qui veulent supprimer l'existence de l'État, eh bien, d'arriver à leur fin aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils y arrivent ? En utilisant ces technologies dérégulées sur lesquelles le pouvoir de l'éthique et de la morale que vous utilisez, vous messieurs, dans vos travaux et que vous représentez autour de la table avec nous, eh bien, sont absents. Et donc, nous avons un immense problème, c'est que, en plus, nous n'y comprenons rien. Et comme nous n'y comprenons rien...
Ça me rappelle le titre d'un film, mais c'est
oui,
toute
mais
une autre histoire.
C'est exactement ça. En fait, on ne comprend rien à ce qui se passe derrière nos écrans. Et pour le réguler, eh bien, il va falloir le comprendre. Je crois qu'on est quand même là dans un enjeu civilisationnel colossal et que si on ne se réveille pas, eh bien, nous pourrions être amenés à écouter des voix fabriquées de M. de Gaulle, mais qui nous diraient pas du tout ce qu'il y avait dans ses discours de l'époque.
C'était le plaidoyer de Thomas Huchon. Je pense qu'on peut l'applaudir et on va applaudir évidemment tous les invités qui sont autour de ces micros. Un dernier mot, l'historien Jean-Pierre Batte qui a bien voulu m'accompagner, qui s'est donc improvisé producteur de radio.
Merci encore, mais toujours le plaidoyer de l'historien qui est la critique des sources. Tant qu'on ne recoupe pas les sources, et ça recoupe le métier du journaliste, eh bien on risque d'être dupe. Donc la conscience citoyenne va de pair avec recouper ses sources.
Merci à tous. Donc Thomas Huchon, Joseph Chazalon, Nicolas Aubin, Tiffaine Martineau-Lagarde et puis bien sûr Jean-Pierre Batte. Merci à toutes et à tous et merci au public de la BNF de sa présence attentive et chaleureuse. Moi, je vous applaudis. Vous retrouvez toutes les infos de cet épisode réalisé par Sophie Janin, Boris et Julien. J'ai oublié leur nom de famille sur la page internet de La Marche du Monde et sur notre appli RFI Pure Radio pour la réécoute en podcast. Cette émission encore et toujours, c'est la vôtre. Et juste après les infos, vous retrouvez tous les cinémas du monde, spécial IA avec Elisabeth Le Quéré et Sophie Turlotin. Quel est le programme, Elisabeth ?
Bien justement, on va parler du cinéma tel qu'il est révolutionné par l'IA à court et moyen terme et de tout ce que ça implique du point de vue social, économique, éthique et bien sûr esthétique.
Est-ce qu'on va aller faire un petit tour en 2001, l'Odyssée de l'espace ?
On va commencer par là.
Merci beaucoup et merci à tous. Restez allés. Pump, 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 pump